Radio Okapi.
Le journal, Pascal Massirica. Okapi.
C'est votre journal, madame, messieurs. Bonsoir à la une. Les personnes vivant avec le handicap plaident pour que le Parlement congolais vote une loi qui les protège, à l'instar de l'expérience sous d'autres cieux. Souhait exprimé ce vendredi 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec le handicap. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vole au secours du programme national de lutte contre le paludisme, à qui il a fait don aujourd'hui du matériel roulant, du matériel qui a coûté à cet organisme onusien plus des millions de dollars. Et puis, en justice, la deuxième audience du procès Floribert Chebeya Bahizire a vécu aujourd'hui à Kinshasa. Au prochain round fixé au 10 décembre, le collectif des avocats de Chebeya tient mordicus à l'inculpation du général John Numbi. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes vivant avec le handicap. À Kinshasa, la journée a été célébrée avec faste au centre de rééducation des personnes handicapées. Pour l'occasion, les handicapés ont exprimé le désir de voir le Parlement congolais voter une loi protégeant cette catégorie des personnes. C'est un reportage de Nadine Foulansimba.
C'est dans cette ambiance que cette journée a été célébrée au centre de rééducation des handicapés physiques, journée instituée pour jeter de base d'une meilleure compréhension des problèmes liés à l'handicap. À Kinshasa, ces personnes avec handicap recourent dans la plupart des temps à la mendicité pour leur survie. À côté de cette catégorie, il y a de ceux qui préfèrent plutôt travailler. C'est le cas de Naomi, une jeune fille de 17 ans qui vit avec plusieurs handicaps. Elle a des problèmes de croissance et des yeux. Sur sa chaise roulante, Naomi donne l'impression d'avoir 9 ans au lieu de 17 ans. Et cet handicap ne l'a pas empêché de créer une ONG qui porte son nom.
Je me suis dit que je pouvais aider les personnes vivant avec handicap et je pourrais mieux les comprendre aussi. En fait, ça aide les enfants, les personnes vivant avec handicap pour qu'ils soient intégrés dans la société.
Pour Papa Zachary, paraplégique de son état, il serait préférable qu'une loi soit votée au Parlement pour protéger les personnes vivant avec handicap.
Tant que la République démocratique du Congo n'a pas encore ratifié la Convention internationale des personnes handicapées, nous n'avons pas encore avancé.
Et dans son adresse, Ferdinand Kambere, ministre des Affaires sociales et humanitaires, a souligné qu'il existe déjà un projet de loi dans ce sens. Ce projet a déjà été élaboré et validé par son ministère. Cette loi n'attend plus que son adoption au Conseil des ministres avant d'être envoyée au Parlement pour le vote.
Le programme des Nations Unies pour le développement vient de faire un don au programme national de lutte contre le paludisme. Ce don constitué de 7 jeeps de marque Toyota Land Cruiser et d'un minibus IAS est évalué à plus des $1,500,000 américains. C'est le ministre de la Santé publique, Victor Makwen Kaput, qui a réceptionné cette donation du PNUD de ce vendredi à son cabinet de travail à Kinshasa. Selon le responsable du projet Malaria au PNUD, cette dotation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet que cette agence onusienne exécute sur financement du Fonds mondial à travers ce qu'il appelle Round 8. Explication du docteur Yakuba Zina au micro de Belinda Bosuma.
C'est une des activités déjà prévues, budgétisées, qui doivent contribuer au renforcement des capacités du ministère de la Santé, principalement le programme national. Donc en fait, c'est l'exécution normale de ce projet. Vous savez que le Fonds mondial est une structure internationale qui fait des appels à soumission à l'attention des pays. Et ce sont ces appels à soumission qu'on appelle round. Donc il y a eu une série d'appels à soumission, comme des appels d'offres que le Fonds mondial a fait. Et au 8e appel à soumission ou 8e round, la RDC avait fait une proposition pour la lutte contre le paludisme. Et cette soumission avait été approuvée et elle est actuellement en train d'être mise en œuvre. Le round 8 veut dire simplement qu'il est venu en 8e position dans la série d'appels d'offres. Maintenant, lors des soumissions du Fonds mondial, et ça peut être une proposition lutte contre le paludisme, ça peut être une proposition lutte contre le sida, comme ça peut être une proposition lutte contre la tuberculose. Le Fonds mondial finance des propositions de lutte contre ces trois maladies.
Un mot de justice avec le procès Floribert Chebeya Bahizire. La troisième audience aura lieu le 10 décembre prochain. Cette date a été fixée au terme de la deuxième audience tenue aujourd'hui au CPRK, ex-prison centrale de Makala. Une audience au cours de laquelle la partie civile et les avocats des accusés ont présenté chacun ses premières remarques à ce stade de l'instruction de l'affaire. Plus de détails avec Donna Madimba.
Pendant au moins 3 heures, une vingtaine d'avocats partis civils ou avocats de la défense réunis ont pris la parole pour échanger avec la cour et faire des remarques. Les avocats des accusés, par exemple, ont relevé quelques faits jugés irréguliers, mais ils ont surtout réclamé la liberté provisoire pour leurs clients qui, selon eux, n'ont rien à se reprocher. Maître Zimake Kambezi.
Nous avons parlé des décisions de la Cour suprême de justice qui a tranché abondamment que lorsque les poursuites ont été irrégulièrement entamées, eh bien, il faut donner main levée de la détention parce que ces poursuites n'ont plus un soubassement juridique.
De leur côté, les avocats de Floribert Chebeya, Fidel Bazana et la voix des 100 voix ont analysé l'aptitude de la cour militaire à instruire ce procès et ils ont fini par dire que selon eux, le procès de Floribert Chebeya et Allier n'a jamais été fixé à la cour militaire et ne peut légalement être instruit qu'à une juridiction supérieure, c'est-à-dire soit à la haute cour militaire, soit à l'auditorat général militaire, Maître Ntoto Alain.
C'est tout à fait quelque chose qui ne peut pas se concevoir. L'auditeur supérieur n'a pas instruit ce dossier. Dès lors, il ne revenait pas, il n'était pas de son ressort de fixer ce dossier devant la cour militaire.
Attendons donc vendredi prochain pour connaître la réponse réservée par la cour à toutes ces préoccupations.
Notez que pour ce qui concerne la requête formulée de voir le général John Numbi être inculpé comme accusé, le collectif des avocats de Floribert Chebeya Bahizire a précisé que la cour militaire n'est pas du tout les lieux où il faut poser ce problème. Cette question ne sera soulevée, selon eux, que dans une instance supérieure à la cour militaire. Au Kasaï oriental, la population de Kabeakamwanga s'est dit victime des tracasseries policières au quotidien. C'est notamment des arrestations arbitraires doublées de fortes amendes forfaitaires. La société civile locale qui dénonce ces abus s'est dit choquée pour le moment par ces actes qui traumatisent les habitants. Les responsables de la police nationale sur place qui reconnaissent quelques cas s'engagent à s'y investir. Emmanuel Elameji à partir de Kenankuna.
Cette tracasserie s'observe d'abord dans la cité de Kenankuna, chef-lieu du territoire, avant de s'étendre dans les localités environnantes. Des faits bénins commis même par des mineurs sont réprimés avec la dernière rigueur. Le séjour au cachot dépasse même 10 jours et la libération est conditionnée par le paiement de fortes amendes. Elle varie entre 50 000 et 150 000 francs congolais. La société civile pointe du doigt un sous-commissariat de la police situé à l'entrée du territoire et un cachot de la mer. Les responsables des polices du territoire reconnaissent certains faits mis à charge. Ils affirme ne jamais recevoir de rapport de ce sous-commissariat incriminé. La hiérarchie du district de police installée à Miabi dit être au courant et promet de s'investir pour en finir. Signalons que les mêmes formes de tracasseries policières sont signalées sur toutes les voies dans les localités du territoire. De Kadeyakamanga, Emmanuel Elamejo Akadedi, Radio Kapi.
Dans l'actualité, sachez également que la Société nationale des chemins de fer du Congo est en situation de péril et cela nécessite des gros moyens financiers. Déclaration faite par le directeur d'exploitation de la SNCC ce vendredi à Radio Okapi. C'était à l'occasion de la journée mondiale des cheminots célébrée le 3 décembre de chaque année. Pour Marc Mayanga, tout au long de l'année 2010, la SNCC a connu des sérieuses difficultés dans son réseau d'exploitation. C'est notamment le manque de locomotives, le vol des câbles caténaires ainsi que des actes de vandalisme. On écoute Marc Manyanga au micro de Colin Djumamoussompo.
Vous avez entendu parler des vols des câbles, vous aviez même couvert ces émissions. Ça c'est dans la partie sud du réseau des vols des câbles caténaires. Suite à tous ces éléments endogènes et exogènes, nous ont fait perdre en moyenne 2,6 locaux jour. Les besoins de la SNCC se chiffrent de l'ordre de milliards de dollars, bien que dans le premier plan actuel, on a tablé sur 645 millions de dollars. Donc, à l'heure actuelle, la SNCC bénéficie d'un don d'environ 218 millions de dollars de la Banque mondiale. C'est dans le cadre de ce processus de réforme de l'entreprise-là. Et nous pensons qu'avec ces 218 millions de dollars, la mise en œuvre effective de ces montants permettra progressivement de sortir un peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
On termine avec l'Équateur où ce mois de décembre, c'est l'ouverture de la campagne de vente par les planteurs du café Robusta du Sud-Ubangi. Mais la production attendue sera faible cette année 2010, annonce l'inspection de l'agriculture du territoire de Guémena. C'est à cause d'une maladie qui attaque en ce moment les caféiers, une maladie qui a déjà détruit un certain nombre de plantations de café dans ce district. Des précisions avec Dominique Olombi-Monga-Pangué.
Selon l'ingénieur agronome Moïse Chiona, inspecteur de l'agriculture du territoire de Guémena, au moins 80% des plantations de café sont attaquées par la maladie. La trachémicose, c'est le nom de cette maladie qui se manifeste par le jaunissement des feuilles du caféier. La tige de la plante a la langue noircie, à la récolte, la gousse a la couleur rouge normale, mais à l'intérieur, pas de grains, décrit l'ingénieur agronome Moïse Chiona. L'année dernière, le Sud-Ubangi, premier producteur du café Robusta à l'Équateur, avait produit 111 000 tonnes. Cette année, dit-il, à cause de cette maladie, on ne pourra pas atteindre 40% de cette production. C'est depuis quelques années que la trachémicose sévit dans les plantations de café du Sud-Ubangi, entraînant la diminution constante de la qualité de la production. Les planteurs paupérisés, pour la plupart artisanaux, se disent abandonnés à leur triste sort. L'ONC, Office National du Café, qui les encadrait, ne se manifeste plus sur le terrain. Malgré les plaintes formulées ces dernières années, aucune réponse de la part du ministère de l'Agriculture pour leur fournir des produits phytosanitaires pour la combattre. Mbandaka, Dominique Volombi Mongapangé, Radio Okapi.
À Kinshasa, il est 18h10, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.